chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette série d'études. Nous arrivons à la deuxième partie et le titre sera « La parole de Dieu implantée en vous ». J'aimerais vous demander de noter, si vous le pouvez, quelques citations bibliques que je vous donne. C'est très important, très important. Tout d'abord, c'est que vous puissiez vous-même constater que ce que vous entendez, c'est bel et bien la stricte parole de Dieu et pas autre chose. Très important. Pour commencer, notez s'il vous plaît Jacques, chapitre 1, verset 21. Si je dis Saint Jacques, ne vous inquiétez pas. Je dis aussi Saint Jean. Et c'était tout de même des saints dans le Seigneur, on doit le reconnaître. On doit le reconnaître. J'ai dit donc Jacques, chapitre 1, verset 21. Rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. N'ayez pas de désir caché dans votre esprit. Soyez tendre et bon. Ouvrez votre esprit à Dieu. Recevez sa sainte parole dans votre vie. Laissez cette parole sauver votre âme. Et j'ajoute votre esprit. Ceci commence le jour où vous acceptez Jésus-Christ en tant que votre Sauveur et continuez jusqu'au salut complet. Il est dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 12, « Vous obtiendrez le salut avec crainte et tremblement. » Mon amour pour la sainte parole de Dieu a grandi, car j'ai découvert que l'on doit placer Jésus en premier. On ne peut pas avoir un double esprit. J'ai demandé au Seigneur de m'enseigner sa sainte parole. Il est toujours en train de m'enseigner. Oh oui, malgré mon âge très avancé, jamais je saurai tout. Je sais pratiquement rien. Sa sainte parole devient vraiment toujours plus passionnante. Dans cette étude, nous voulons vous montrer que sa parole doit réellement être implantée et conçue dans votre esprit. Et quand cela arrivera, vous verrez un changement dans le domaine de votre vie où cela s'est produit. Débarrassez-vous de cette vie factice. Soyez humble, recevez cette parole implantée dans votre esprit. Laissez cette parole dynamique s'implanter dans votre esprit. Quand vous plantez quelque chose, cela prend vite racine et grandit. À propos, le mot « planter » dans le verset cité précédemment, cela signifie être implanté. Alors que sa parole soit plantée dans votre esprit, qu'elle prenne racine et produise des fruits frais tous les jours, n'oubliez pas que vous devez vous détourner de la souillure, de la mesquinerie et de la malhonnêteté et recevoir avec humilité cette parole qui est vivante. Elle n'entre pas pour mourir, mais pour vivre et grandir. Ce n'est pas un livre d'histoire. Elle est capable de sauver votre âme. Gardez-vous en équilibre sur ceci et interprétez à juste titre ce que je suis en train de dire. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a passé un certain temps en prison. Il connaissait toutes ces vérités. La parole de Dieu agira où que vous soyez en ce moment. Ne pressez pas Dieu. Soyez patient. L'apôtre Paul travailla beaucoup lorsqu'il était en prison. Ne passez pas le reste de votre vie en prison à cause de votre esprit paresseux. Il y a des gens qui aiment tout simplement la prison parce qu'ils sont trop paresseux pour croire et réaliser leur sortie. Il se peut que votre prison soit la maladie, des problèmes à la maison ou n'importe quoi. Faites preuve de patience. Faites entrer cette parole dans votre esprit. Soyez un acteur efficace de la sainte parole. Aimez les gens. Ne devenez pas frustré et ne semez pas le trouble. Demeurez prêt. Laissez cette merveilleuse parole vous sauver. Alors que Jésus-Christ est implanté dans votre esprit, grâce à sa parole qui vit en vous, votre vie produit un fruit doux et précieux. Vous êtes vraiment la lumière du monde, et comme un prédicateur le disait, vous êtes une bénédiction partout où vous allez. Votre vie est donc une extension de la vie de Jésus-Christ. La chair doit être crucifiée. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, le vieil homme a été crucifié. Vous devez constamment marcher dans la sainte parole. Elle s'occupera de la chair. Et comment ? Oui, votre vie est une extension de la vie de Jésus. N'importe quelle vieille mauvaise pensée de l'ancienne vie adamique doit être extirpée, et j'en sais quelque chose. Et seule cette parole implantée doit être autorisée à grandir et à produire des fruits. Toutes les pensées doivent être amenées captives à Jésus. Les pensées seules de Jésus ont le droit de grandir et de produire. Toute autre pensée provient de la chair et non pas de Dieu. Toutes les pensées doivent donc se soumettre et devenir des pensées de Jésus. Notez 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Il se peut que vous vous imaginez que vous allez perdre vos bénédictions financières. Il se peut que vous vous imaginez que vous allez mourir prématurément. Il se peut que vous vous imaginez que vous avez une horrible maladie. Ces pensées doivent être renversées. Toutes les pensées qui s'élèvent contre la sainte parole doivent être renversées. Toutes les pensées doivent être renversées. Elles sont faites pour se soumettre à la sainte parole vivante de Dieu. Pensez et proclamez la victoire. Pensez et proclamez la santé. Pensez et proclamez la droiture. Pensez et proclamez la sainte parole implantée qui grandit en vous. Laissez cette parole se concevoir dans votre esprit. Il est dit en Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, donne naissance au péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé, enfante la mort. Quand des pensées charnelles entrent dans votre esprit, elles vous poussent vers cette force négative appelée ici convoitise. C'est une façon vague de nommer toute pensée négative et charnelle. Quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu, peut ici être qualifié de convoitise. Le mot grec signifie en fait une envie, particulièrement pour ce qui est défendu. Une personne qui se nourrit d'apitoiement sur elle-même, de crainte, d'insécurité, etc., est coupable de se nourrir de convoitise ou de négativité. Dieu vous a donné Jésus-Christ. Vous pouvez entrer dans la force surnaturelle du Seigneur Jésus. Vous n'avez pas à accepter les aumônes de Satan. Notez que cette force négative se conçoit et réellement, elle se trouve maintenant en vous. Elle devient donc une partie de vous. Vous êtes spirituellement, on peut dire, j'aime pas beaucoup le mot enceinte de cette force négative, mais elle grandit et elle donne naissance à un bébé qui s'appelle le péché. Alors le péché vous détruit tôt ou tard. La convoitise, quand elle est conçue, donne naissance au péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, enfante la mort. Il est dit en Jacques, chapitre 1, verset 18, « C'est lui qui, de sa libre volonté, nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. » Dieu utilise le même principe pour produire la vie du Christ en vous. Donc, il implante sa sainte parole en nous par la prédication ou par la lecture de sa sainte parole. Alors cette parole se conçoit dans votre esprit. Elle grandit et elle crée la vie même du Christ en vous. Plus vous vous soumettez aux vérités de Dieu, plus le Christ a du pouvoir sur vous. Continuez d'éliminer toute pensée négative. Quand vous laissez la Sainte Parole s'implanter et s'enraciner en vous, vous devenez spirituellement enceinte de cette Sainte Parole. Elle est vivante de la vie même de Dieu. Vous êtes donc participant de Dieu et de sa nature en laissant cette parole prendre racine en vous. Vous l'avez laissée se concevoir en vous. C'est passionnant cela. La Bible dit en 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, Nous avons été mis en possession des plus précieuses et des plus grandes promesses, afin que par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine. Notez que vous êtes participant de sa nature par ses promesses. Écoutez un peu ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Ça y est, vous êtes la possession de Dieu par sa sainte parole. Dieu est vivant en vous à travers sa parole qui est implantée dans votre esprit. Que sa parole se conçoive donc en vous. Travaillez dans plusieurs domaines de votre vie en même temps. Beaucoup de gens ont eu l'expérience du salut initialement conçu dans leur esprit, mais ils n'ont pas laissé cette conception se réaliser dans d'autres domaines de leur vie. Il est dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 15, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Laissez les versets qui guérissent se concevoir en vous et qu'ils puissent produire la santé. Laissez les Écritures saintes de grâce se concevoir en vous et produire la grâce et l'excitation dans votre esprit. Anticipez l'amour des gens plutôt que leur haine. Selon Saint Jean, chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit. » Il est dit en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un même esprit. » Et selon Saint Jean, chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sa parole est esprit. Dieu est esprit. Sa parole, quand elle est implantée en vous, amène Dieu dans votre esprit. Vous êtes donc unis au Seigneur par sa sainte parole. Par ses promesses, vous êtes participant de sa nature divine. Votre esprit et celui de Dieu font maintenant un. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes un produit de son esprit et de sa parole qui viennent tous les deux de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est et qui vient de Dieu, selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1 et 2. Quand cette parole se conçoit en vous, Dieu, on peut dire, entre ainsi dans votre vie. Notez la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, qui nous parle de votre régénération grâce à la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Sa parole en vous amène Dieu dans votre vie. Oui, vous êtes un avec Dieu. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Alléluia. Selon Éphésiens, chapitre 2, verset 19, vous êtes concitoyens des saints et des membres de la famille de Dieu. L'esprit de celui qui est uni au Seigneur est l'esprit du Seigneur. Vous êtes donc une partie de Dieu. Dieu et implanté en vous. Que ce qui est en vous grandisse dans la totale nature de Dieu maintenant. Il est vrai que vous n'êtes pas Dieu, pas du tout, mais il est en vous par son Saint-Esprit. Soumettez votre volonté charnelle à sa sainte parole, à son Esprit Saint, et il s'élèvera et accomplira des exploits à travers vous dès ce jour et dès cet instant. Sachez que vous êtes créés à l'image de Dieu, selon la Genèse, chapitre 1, verset 26. L'homme a péché. Jésus-Christ vous a racheté pour le Père. Il a goûté la mort pour tous les hommes. Hébreux chapitre 2, verset 9. Jésus a anéanti la puissance de celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Vous êtes libre, libre de marcher dans la vie du Père à travers le Christ ressuscité. Votre corps terrestre n'est pas délivré de la mort. Il sera changé au son de la dernière trompette. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Tandis que vous laissez sa parole se concevoir en vous, vous marcherez de plus en plus dans sa vie victorieuse. Soyez donc patient, faites un pas après l'autre. Il y a une période de croissance. Vous y entrez petit à petit. La foi de Dieu est en vous. Sa compétence est en vous. N'acceptez pas les refus négatifs de Satan. N'opérez pas dans la vieille vie négative que Satan essaie de vous dicter d'aimer. Ne vous identifiez pas à des échecs passés. Laissez la Sainte Parole être implantée en vous. Laissez la Sainte Parole être enracinée en vous. Laissez la Sainte Parole se concevoir en vous. Dites et pensez seulement ce que dit la Sainte Parole. Vous pouvez faire toutes choses à travers Jésus-Christ, car il est votre vie, il est votre force. Chers amis, vous êtes transformés à la ressemblance de Christ quand la parole est implantée en vous. Notez Romains, chapitre 12, verset 2. Là, il est dit, « Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand vous laissez les forces négatives s'implanter en vous, vous êtes pris au piège et vous êtes vaincu. La plupart des gens ont été instruits de cette façon depuis leur jeunesse et, par conséquent, les principes de foi leur sont étrangers. Les disciples ont été instruits au début dans l'incrédulité. Notez Saint Matthieu chapitre 17, verset 20. Il leur a répondu, « C'est parce que vous manquez de foi Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Ce furent donc des paroles étranges pour ses disciples. En effet, ils étaient instruits dans l'incrédulité. Jésus était inquiet au sujet de l'incrédulité de ses disciples. Ça le bouleversait plus que tout. Il avait dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici, celui qui a besoin de moi. » Saint Matthieu, chapitre 17, verset 17. Donc, l'intention de Dieu n'est pas que ses enfants reste dans le royaume de l'incrédulité et de la négativité, pas du tout. Son intention est que vous agissiez comme Jésus. Et puis Jésus parla sévèrement au démon. Et ce démon a dû sortir. Qu'il sorte de l'enfant. Et dès cette heure-là, l'enfant a été guéri. Saint Matthieu, chapitre 17, verset 18. Vous et moi, chers amis, nous devons développer une confiance positive dans le Père. Jésus avait entièrement confiance dans le Père. Il s'attendait à ce que le Père coule en lui quand il parlait. Regardez Jésus agir dans le Nouveau Testament. Marchez dans cette confiance. Laissez la Sainte Parole vous transformer. Et surtout, vous transformez en sa ressemblance. Si quelqu'un avait besoin d'une guérison, eh bien, Jésus disait toujours, je le veux. S'il avait besoin, par exemple, d'un miracle, Jésus disait toujours, je le veux. Jésus connaissait toujours l'Esprit de Dieu. Quand vous marcherez dans l'Esprit Saint, vous verrez Jésus subvenir à nouveau aux besoins des gens autour de lui. Dieu veut aider l'humanité. Il les aime. Vous et moi devons développer la même bonne réaction à l'égard du Père et des besoins des autres. Cela vient en permettant que nous soyons imprégnés de sa sainte parole. Donc, sa parole doit être conçue en nous. Les dons de l'Esprit Saint sont également impliqués dans tout cela. Jésus a dit qu'il n'a jamais rien fait sans l'ordre du Père. Il est dit en Saint Jean, chapitre 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. » Ou selon ma version allemande, ce qu'il doit faire son Père. Placez Jésus au premier plan, toujours. Aimez-le. Et n'hésitez pas, parfois, pourquoi pas, de jeûner et de prier. Devenez comme Jésus en amour, et quand vous rendez service, stimulez les dons. De grandes choses se produiront dans votre vie. Marchez simplement dans la confiance. Sachez que vous aussi êtes un ambassadeur du Christ. Abordez les situations comme des représentants du Seigneur. Ne ressentez ni peur, ni insécurité. Reconnaissez que vous êtes le représentant de Dieu dans chaque situation. Attendez-vous à ce que Dieu réponde à votre prière. Soyez sûr qu'il vous a placé dans cette situation pour agir en tant que son ambassadeur. Faites grandir cette confiance. Laissez cette vérité s'implanter en vous. Dans le royaume des cieux, vous êtes une personne très importante. Jésus-Christ qui est en vous, il est prêt à faire un double de son ministère encore et encore. Il est prêt de vous utiliser. Devenez donc vivant pour servir Jésus-Christ. Nourrissez votre ordinateur de la Sainte Parole triomphante. Alors qu'elle est implantée en vous, elle grandira. Elle se présentera comme le fruit de Jésus. Continuez à dire cette vérité. Il est dit en Éphésiens, au chapitre 4, verset 15, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cette parole conçue en vous, elle vous lave et elle vous sanctifie. Notez Saint Jean, chapitre 17, verset 17, où il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, c'est elle qui est la vérité. » Chers amis, les mensonges de Satan ont été implantés dans l'esprit de l'homme, et cela déjà dès sa jeunesse. Il est dit dans la Genèse, au chapitre 6, verset 5, « Toutes les pensées de son cœur, c'est-à-dire du cœur de l'homme, étaient chaque jour dirigées vers le mal. » Et notez également Genèse, chapitre 8, verset 21. Et là, il est dit, « Car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, et cela déjà dès sa jeunesse. » Le cœur a été formé depuis la naissance, et ou avant, il a été formé à penser de façon négative. Satan lui-même l'a instruit ainsi. Écoutez Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Là, il est dit, « Pour vous, vous étiez morts par votre faute, par les péchés auxquels vous vous êtes abandonnés autrefois, selon le train de ce monde, suivant le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les enfants de la rébellion. » Nous aussi, nous étions de ce nombre. Nous, qui vivions autrefois suivant nos convoitises charnelles, nous avons accompli les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme tout le reste des hommes. Oui, vous étiez dans le royaume de Satan, et j'en faisais partie. Vous avez été instruits par ces principes pendant vos plus jeunes années, et dans l'ensemble, encore maintenant. Vos parents ne connaissaient pas, dans une certaine mesure, ces belles vérités-là. Tous les chrétiens qui sont régénérés ont eu une connaissance limitée de la vérité, mais Dieu œuvre actuellement, il ouvre actuellement les portes de la compréhension beaucoup plus largement. Un bon nombre de vos parents n'ont même pas été sauvés. Souvent ceux qui étaient sauvés croyaient plus en la maladie qu'en la guérison. Souvent, ils vivaient et agissaient de telle sorte qu'ils créaient en quelque sorte en vous l'insécurité. Beaucoup de gens ont de très grandes peurs qui commencèrent dans leurs enfances déjà, en laissant les mensonges de Satan se concevoir en eux. Une dame est venue un jour nous voir. Elle ressentait des sentiments d'insécurité, je répète, d'insécurité, et comme si elle se sentait absolument inutile. C'est sa mère. C'est sa mère la faute, car sa mère l'avait vendue à sa grand-mère pour 20 euros, alors qu'elle était un petit bébé. Sa grand-mère lui rappelait constamment cela en parlant devant des amis et des parents. Alors la pauvre petite, on peut comprendre, personne ne l'aimait, même pas sa mère, car elle l'a vendue. Et cette phrase a été gravée dans son âme et dans son esprit. On le comprend. En tant que femme mariée plus tard, elle n'autorisait même pas son mari à lui acheter des cadeaux ou des vêtements, car elle avait l'impression que c'était un gâchis de dépenser de l'argent pour elle. Une autre dame a été molestée sexuellement par son oncle, et cela pendant plus de 3 ans. Elle ne pouvait pas le dire à sa mère, parce que sa mère vénérait son oncle. Elle avait une vénération pour cet oncle-là. Elle ne pouvait pas le dire non plus à son père, parce qu'elle savait très bien que son père tuerait cet homme. Elle avait donc une attitude tellement négative vis-à-vis des hommes qu'elle n'avait jamais eu de petits amis. La parole du Seigneur a délivré cette fille de cette attitude-là. Dans ce cas présent, l'esprit mauvais, l'esprit démoniaque, a été finalement chassé. Et elle a pu recevoir la sainte parole de Dieu, cette parole vivante de son esprit et de son amour. Et cette parole a pu la laisser se concevoir, en quelque sorte, dans ces zones qui ont été blessées, pour que la délivrance puisse être totale. La plupart de vos camarades furent formés à l'école de Satan. Vos parents n'étaient pas complètement informés. En fait, bon nombre d'entre eux étaient très mal informés. La plupart de vos professeurs ont été instruits à l'école de Satan. Le père alcoolique a été instruit par les forces négatives de Satan. Oui, le père colérique qui vous maltraitait souvent a été bien formé, il faut bien le dire, à l'école de Satan. Il concevait de la colère. Satan vous a enseigné la rébellion, l'insécurité, la peur, etc. Vous devez maintenant ordonner à ses pensées d'arrêter d'agir en vous. Vous êtes une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et notez Colossiens, chapitre 1, verset 13, où il est dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Maintenant, oui maintenant, vous devez recevoir la parole de Dieu et laisser ces vérités se concevoir en vous. Elles vaincront le négatif, car plus grand est celui qui est en vous, et comment, que celui qui est dans le monde. Notez la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. Donc, le pouvoir de Satan est plus faible, beaucoup plus faible que celui de Dieu, car Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est tout-puissant. Vous pouvez flanquer Satan à la porte. Mettez donc de l'ordre dans votre ordinateur, car vous êtes maintenant une nouvelle créature. Vous avez maintenant la vie de Jésus en vous. Les vieilles craintes ont disparu. Dieu ne vous a pas donné la crainte, car elle est venue de Satan. Les vieilles restrictions ont donc disparu. Vous pouvez faire toutes choses maintenant par Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que vous pouvez tout faire par vous-même. Je n'ai jamais dit cela. Mais nous pouvons faire toutes choses par et en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Que cette nature du Christ soit complètement implantée en vous. Agissez dans sa vie et dans ses attitudes légalement. Vous n'avez aucun complexe. Expérimentalement, vous en avez, hélas, quelques-uns, mais ils appartiennent maintenant à l'ancienne vie, n'oubliez jamais cela. Alors débarrassez-vous-en. Parlez comme une nouvelle créature et agissez comme une nouvelle créature. Chers amis, s'il vous plaît, notez les trois versets suivants. Romains, chapitre 6, verset 11. Vous donc aussi, considérez-vous comme mort pour le péché maintenant, et considérez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et notez Romains, chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et Romains chapitre 6, verset 6, sachant bien que notre vieil homme a été crucifié une fois pour toutes avec lui, afin que ce corps de péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Le vieil homme a donc été crucifié. Que ceci se conçoive, s'il vous plaît, dans votre esprit, que cette vérité puisse vous dominer. Vous n'avez plus à suivre Satan ou ses lois. Identifiez-vous maintenant à la vie de Jésus. Identifiez-vous à la victoire. Identifiez-vous à la réussite. Considérez-vous comme étant mort à l'échec et que vous êtes maintenant vivant pour la réussite. Je n'ai pas dit par vous-même, mais par Jésus-Christ. Considérez-vous comme mort à la maladie et que vous êtes vivant pour et par sa santé, par celle de Jésus. Car il est la santé de ma bonne mine et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Considérez-vous comme mort à la pauvreté extrême. Vous êtes vivant pour la prospérité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Selon le Proverbe chapitre 10, verset 22, il ne faut pas que ça soit mal compris. Je n'ai pas dit que vous devez prier pour posséder une hacienda avec une vingtaine de vaches et 5 chevaux, avec une piscine et avec des domestiques partout. Non, ne comprenez pas les choses à l'envers. Restons humbles, mais le Seigneur ne nous veut pas, ce n'est pas sa volonté, que nous soyons obligés de souffrir épouvantablement en toutes sortes de problèmes et de maladies. Non, non, non. Donc, nous avons le droit de prier et d'intercéder. Donc, laissez ces vérités grandir en vous plutôt que les règles de l'ennemi. Croyez les vérités de Dieu plutôt que les mensonges de Satan. Vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et cela, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Le corps du péché a donc été détruit. Romains, chapitre 6, verset 6. Le péché n'a plus de pouvoir. Le pouvoir que le péché avait sur vous a été détruit. renouvelez votre esprit, reprogrammez votre ordinateur, soyez imprégnés de cela plutôt que des choses négatives. Si vous avez un problème avec un péché particulier ou une certaine attitude bizarre, alors repoussez cela. Rapprochez-vous toujours plus du Seigneur. Aimez-le et vénérez-le. Soyez sérieux avec Dieu. Ensuite, pourquoi pas taper du pied et dites à cette chose d'arrêter de souiller la propriété de Dieu, car vous êtes maintenant sa propriété. Identifiez-vous à la victoire. Ne répétez pas constamment dans votre esprit que vous êtes faible dans tous les domaines. Non. Considérez-vous, s'il vous plaît, comme étant mort au péché. Si celui-ci déclare à haute voix que vous lui êtes toujours soumis, alors repoussez-le et réjouissez-vous dans le Seigneur. Identifiez-vous à lui, à Jésus. Refusez de croire au péché, mais croyez à la délivrance. Réjouissez-vous dans la délivrance. Laissez ces vérités se concevoir en vous. Elles déracineront le péché. Avouez que vous êtes la justice de Dieu maintenant. Pour terminer cette étude, notez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. En Jésus-Christ, qui a été fait pour nous de la part de Dieu, sagesse et justice et sanctification et rédemption. Si vous manquez à vos engagements envers le Seigneur, repentez-vous immédiatement. C'est ce que j'ai appris à faire. Oui, et réaffirmez simplement que vous êtes maintenant la justice de Dieu. Laissez donc cette vérité se concevoir en vous. Vous mettrez bientôt fin à ce péché particulier que vous aviez. Ensuite, travaillez sur d'autres domaines de votre vie. Laissez cette parole s'implanter vraiment en vous. Quand elle sera implantée en vous, vous serez aussi vivant pour servir le Seigneur que jamais. Chers amis, avant de prier ensemble, le Seigneur m'a donné quelque chose à vous transmettre pour vous encourager et pour votre enseignement. En effet, le chemin pour nous tous est difficile. Il n'y a pas de chose plus éprouvante dans la vie que d'être obligé d'attendre. Et pourtant le Seigneur vous demande d'attendre. Attendez jusqu'à ce qu'il vous fasse connaître sa volonté. S'il vous demande d'accepter des choses difficiles. C'est la preuve qu'il vous aime et qu'il est sûr de vous et de votre fidélité. Encore une fois, je le répète, attendez. Il est beaucoup plus facile de s'agiter que d'attendre dans le calme. Tant de ses disciples ont gâché leur travail et ont retardé des bénédictions par leur affairement. Donc, sachez attendre. Jésus-Christ vous éprouvera pas à l'excès, non. Vous ressemblez un peu à deux naufragés sur un radeau, jetés à la dérive en plein océan. Mais voilà que vient à vous celui qui marche sur les eaux, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Si vous l'accueillez quand il s'approche, il en sera pour vous comme pour ses disciples autrefois. Vous aborderez aussitôt là où vous deviez aller. Toute votre peine à ramer et tous les efforts que vous pourriez déployer ne saurait amener un résultat aussi prompt. Ah oui, sachez attendre et vous confiez. Attendez et ne vous laissez pas effrayer. Vivre au fond, c'est être conscient de la présence intérieure de Jésus-Christ. N'ayez aucune crainte. Un avenir magnifique vous attend. Entrez-y comme dans une vie toujours neuve et une existence sans cesse renouvelée où tout ce qui survient, chaque événement, chaque éventualité, devient l'occasion de prendre conscience de sa divine présence. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ayez toujours cette vérité présente à l'esprit, et vous aurez la vie éternelle, oui, la vie qui domine le temps. Quand toute chose, l'Esprit de Dieu vous conduise, et que toujours, vous gardez votre confiance en votre Seigneur. Le sentiment de sa présence alors vous remplira de joie, car il n'attend pas de vous la confiance seulement, mais aussi il attend de vous le bonheur de lui appartenir. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est plus que jamais sujet de tomber malade, raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirées par son Esprit Saint, pour vous permettre de les utiliser et de les adapter à votre situation personnelle. Prions donc. Merci Seigneur, que tu m'autorises de confesser que j'ai reçu de toi une mesure de foi divine. Merci également que tu es pour nous le grand prêtre, ce grand prêtre de la foi et que nous avons le droit de proclamer. merci également, que tu nous avertis de rester vigilants, car rien n'est acquis une fois pour toujours, et cela automatiquement. Car l'ennemi a beaucoup plus d'intérêt de s'attaquer avec ses lieutenants à ceux qui sont sauvés que tous ceux qui lui appartiennent déjà pour l'éternité. Ou si nous te demandons la grâce de nous garder fidèles et vigilants jusqu'à la fin de notre vie et d'échapper ainsi à une vie éternelle très regrettable, mais où il sera beaucoup trop tard d'échapper à quoi que ce soit. Seigneur, nous te demandons que par ton amour et par ta compassion, tu poses tes mains guérissantes sur ceux qui souffrent et qui sont malades, car c'est par tes meurtrissures que nous pouvons être guéris. Merci Seigneur, que c'est par ton ineffable amour et par ton Saint-Esprit que tu nous dévoiles et que tu nous fais comprendre toutes ces choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. À demain matin, Dieu voulant, à bientôt donc. Au revoir, très chers amis.